y a 40 ans, jour pour jour, une annonce d'une ampleur exceptionnelle frappait l'Union soviétique. Le 26 avril 1986, dans la nuit, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explose en Ukraine, provoquant l'un des accidents nucléaires les plus graves de l'histoire. Mais à l'époque, l'information circule lentement, partiellement et parfois de manière fragmentée. Le 28 avril 1986, la télévision du service public du Canada évoque pour la première fois un incident nucléaire majeur en Union soviétique. À ce stade, les autorités soviétiques n'ont encore livré que des informations partielles. Je vous propose d'écouter une bande-son d'archives de Radio-Canada.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un grave accident s'est produit dans une centrale nucléaire soviétique. L'explosion qui a fait des victimes s'est produite à la centrale électronucléaire de la région de Kiev en Ukraine, une zone très peuplée. Le reportage de Pierre Lesourd.
La nouvelle est d'autant plus exceptionnelle et sans doute d'une certaine gravité qu'elle a été annoncée par l'agence TASS et reprise immédiatement dans le journal télévisé. Le communiqué est signé du Conseil des ministres de l'URSS. L'Union soviétique n'évoque en général qu'avec réticence et beaucoup de retard des accidents et catastrophes, pourtant le lot de tous les pays. Il y a des victimes, précise l'agence officielle soviétique, en notant qu'elles sont soignées, ce qui laisse supposer qu'il ne s'agit pour l'heure que de blessés. Des mesures sont prises pour éliminer les conséquences de l'accident, ajoutent, dans leur style laconique, les médias soviétiques. Cette centrale nucléaire de Tchernobyl est située en Ukraine, dans la région très peuplée de Kiev. Ses trois tranches datent de moins de 10 ans et avaient été inaugurées avec fierté. L'agence de presse Novosti, dans un article publié en 1979, titrait « La centrale atomique de Tchernobyl, aucune raison de s'inquiéter ». Pierre Lesourd, Moscou.
Et c'est au tour de la Suède, quelques jours plus tard, que les premiers signaux d'alerte sont détectés à des centaines de kilomètres du site. Des relevés anormaux de radioactivité dans l'air amènent les autorités scandinaves à remonter la piste jusqu'à l'URSS.
La nouvelle a été annoncée par Moscou après que la Finlande, la Norvège, le Danemark et la Suède aient signalé des taux anormalement élevés de radioactivité. En Suède, plus de 600 ouvriers de la centrale nucléaire de Forsmark avaient même été évacués, les autorités ayant craint une fuite locale. On devait ensuite constater que cette pollution radioactive, qui serait sans danger, avait été transportée au-dessus des pays scandinaves par des vents venant du RSS.
C'est ainsi que le monde découvre progressivement l'existence de l'accident, jusque-là largement sous-estimé dans sa communication officielle. Et en France, dans une interview d'archives, le professeur Jean Chanteur, alors directeur adjoint du CSPRI, c'est l'ancêtre de l'autorité de sûreté nucléaire, revient sur la perception de la crise à l'époque. Le discours officiel se veut rassurant alors même que les données scientifiques commencent à s'accumuler. Mais en France, on a tendance à prendre ça gentiment.
Je dirais des mesures simples dans un premier temps.
On demande simplement aux gens de rester chez eux, portes et fenêtres fermées, le temps du passage, du panache.
Pour l'instant, il n'y a aucun risque avec l'accident qui vient d'avoir lieu en Union soviétique.
À ça, je peux vous dire qu'en France, il n'y a absolument aucun risque. On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque.
Tous les résultats de ces prélèvements sont ensuite analysés par de puissants ordinateurs, comparés, publiés et envoyés à tous les organismes étrangers similaires dans le monde.
On peut apprécier son calme et son sérieux. Dans les jours qui suivent, les masses d'air contaminées se déplacent au-dessus de l'Europe. Si les autorités affirment alors que le territoire français est peu concerné, les relevés scientifiques, eux, et les analyses effectuées a posteriori montrent que l'est de la France, du nord de la France, en passant par la Moselle jusqu'à la Corse, est bien touché, et notamment certaines zones ici, sur les plaines de Champagne, comme peut le témoigner une archive météo qui était passée sur Antenne 2, à cette même période.
Le plus inquiétant ce soir reste le nuage de particules radioactives. On le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement ? Les explications de Brigitte Simonetta.
Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède. Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Mais attention, ces prévisions sont établies pour 3 jours. Reste à savoir combien de temps il faudra encore pour éteindre l'incendie.
Ce furent les pays scandinaves qui furent les premiers pays alertés, la Finlande, le Danemark et la Suède. La Suède où l'on recommande maintenant de faire attention aux pluies, car en effet il a plu ces derniers jours et l'on demande aux habitants suédois d'éviter de boire les pluies de ruissellement.
Comme vous avez pu le remarquer dans ce bulletin météo d'époque, le nuage est évoqué sans inquiétude particulière, hormis pour le journaliste. L'anticyclone est présenté comme un élément protecteur qui repousse les masses d'air vers l'est. Mais sur le terrain, aucun signal visible pour la population, mais dans les laboratoires, les chaînes de mesure et les analyses agricoles révèlent progressivement la réalité de la contamination. Les laits, les végétaux, les sols, tout devient support d'analyse. Et là, nous allons voir comment se passaient les analyses, mais nous sommes déjà le 8 mai 1987 et sur Antenne 2, justement, un reportage a été réalisé en parlant des analyses et vous permet de découvrir si le nuage a peut-être touché la France.
Il reste à connaître le taux de radioactivité enregistré depuis la catastrophe de Tchernobyl et plus précisément comment on mesure, quel est le maximum en temps normal et ce que l'on a constaté en France. Explication Jacques Violet.
La radioactivité contrôlée ici au Vésinet dépend du type de radioéléments qui se sont répandus dans l'atmosphère. Neutrons, rayons gamma, iode radioactif, etc. Dans le cas de Tchernobyl, le problème immédiat est celui de l'iode, qui se fixe dans l'organisme humain, pas d'autres éléments. En France, selon les spécialistes, la radioactivité n'a jamais dépassé 200 becquerels, l'unité de mesure par litre de lait ou d'eau, alors que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a fixé comme limite, toujours sans danger, 2000 becquerels. Depuis, la radioactivité décroît régulièrement pour revenir à des taux normaux voisins de zéro. Lorsque le nuage radioactif est redescendu des pays scandinaves vers l'Europe du Sud, il a frôlé la France. Nous étions le 1er mai, souvenez-vous, une météo parfaite, une photo satellite avec une France dégagée, pas de pluie. Ce nuage radioactif invisible n'a donc pas été lavé par des pluies, ce qui explique que très peu de radioactivité soit redescendue, précipitée sur le sol, dans les prairies et les rivières.
Il y a eu une radioactivité, je ne vous donne pas de détails, mais en gros, par à-coup, 10 fois plus forte que la radioactivité normale. C'est-à-dire pas dangereuse, véritablement. Mais on a tellement l'habitude, depuis une génération, de mentir sur ces sujets-là, l'information officielle, je veux dire, qu'on ment même lorsqu'on pourrait se passer de mentir, alors que ce ne serait pas dangereux. On pourrait le dire, ces choses-là.
Qu'est-ce que vous réclamez, vous, écologiste ?
On réclame une bonne information.
Vous avez pu remarquer le témoignage, donc déjà à l'époque, où les gens s'inquiétaient, comme là, Jean Carlier, que vous entendiez, des écologistes à l'époque. Et plus d'un an après, seuls les journalistes de la BBC ont pu pénétrer pour voir l'envers du décor et donner de bonnes informations à peu près interprétées.
La route d'accès à Tchernobyl, déserte. Seule une voiture de police ouvre le chemin aux reporters de la BBC. Sur les bas-côtés, les terres contaminées ont été recouvertes de sable. Les arbres de la forêt sont morts par centaines. Ils n'ont pas résisté à la catastrophe du 26 avril 1986. Les mauvaises herbes, en revanche, ont envahi la ville abandonnée de Pripyat. Ici vivaient plus de 50 000 personnes à 2 km de la centrale. 50 000 personnes qui ont tout laissé sur place et depuis 14 mois. Rien n'a bougé, pas même le linge aux fenêtres. Les voitures particulières aussi sont abandonnées. Les propriétaires ne sont pas venus les rechercher. Elles sont trop contaminées. Partout, le nettoyage se poursuit à grands jets d'eau sur toutes les voies d'accès à la centrale. À quelques centaines de mètres du réacteur, la radioactivité est encore très importante, 13 millirèmes par heure, c'est-à-dire 3 fois plus que la dose maximum admissible par an. Si le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl est maintenant enfermé dans un sarcophage de béton, des débris très radioactifs traînent toujours sur les toits et des dizaines d'ouvriers se relaient encore pour les ramasser.
Et voilà, reportage et témoignage tiré donc des archives de l'INA dans le 6 juillet 1987. Cet épisode reste donc aujourd'hui un objet d'étude majeure à la fois scientifique et historique sur la diffusion des retombées radioactives en France et la gestion de l'information lors de la crise de Tchernobyl. Il interroge encore la manière dont une catastrophe peut être perçue avant d'être pleinement comprise. 40 ans après, Tchernobyl reste un événement mondial, mais aussi un événement local, discret, invisible, comme sur nos plaines de Champagne, où par certains endroits, des taux de radioactivité restent relativement élevés, notamment aussi en dehors des plaines, sur les Vosges et les plaines d'Alsace, où, bien après le passage de nuages, des relevés sont encore inquiétants. Nous vous proposons désormais de poursuivre ce documentaire avec Francine Beretti de Radio France Internationale, avec des archives, des témoignages et des analyses issues de l'époque et avec un petit retour 40 ans avant. Un retour en images et en son sur une catastrophe qui a marqué l'histoire du nucléaire moderne. Je remercie Thierry Rouget pour la réalisation de ce documentaire, Stéphane Bérangier pour tout ce qui est archives. Et je vous souhaite un excellent dimanche, 26 avril 2026. C'était un documentaire spécial sur les 40 ans de Tchernobyl, jour pour jour, événement qui nous a tous marqués, bien sûr, peu importe les années. Je vous propose donc d'écouter Francine Beretti avec son documentaire d'une vingtaine de minutes. Excellent dimanche.